se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
Le retour de ce week-end des experts. Bon dimanche et bonne année à vous toutes et à vous tous. Voilà cette année 2021 qui débute. Et nous, on attaque notre dernière heure de ce week-end des experts auto avec Jean-Luc Moreau. Quand je dis dernière heure, c'est vraiment la dernière, puisqu'à partir de la semaine prochaine, ce sera le week-end du 9 et 10 janvier. Vous retrouverez un nouveau rendez-vous, une nouvelle émission. Hein. Ce sera la matinale de BFM TV qui fusionne avec celle d'RMC. Voilà, une matinale commune que vous découvrirez donc le samedi et dimanche entre 6h et 10h. Jean-Luc, plein de choses d'ici 10h pour terminer avec ce Airbnb de la Borne de Recharge. On retrouvera aussi notre question pas si bête, le divorce impossible entre les automobilistes et les voitures, hein, ça c'est clair. François Alain qui est toujours avec nous. Et puis, bien sûr, vos questions au 32-16. Vos questions dès maintenant. Vous allez parler de quoi tous les deux? De quel anniversaire?
On va parler de la B2, puis on va parler de l'Alpine.
Ah ouais, l'Alpine
A310 qui fête ses 50 ans. Ah ouais.
Et pas que.
Et tout de suite. Et pas que, elle fait quoi? Elle fait autre chose?
Non, parce qu'il y en a d'autres qui font.
Ah bon, d'accord, oui.
Toi, ça fait longtemps que c'est passé, mais bon.
Le problème, c'est que si on commence à souhaiter, à fêter tous les anniversaires des voitures, ça risque d'être un peu compliqué. Je pense qu'on va déborder un petit peu.
Ah bah, de quelques jours.
C'est Michel qu'on a là.
Je suis pas sûr que Jean-Christophe Drouet soit d'accord. Oui, tout à fait. Nous avons Michel au 32-16.
Bonjour, Michel.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Michel?
D'abord, merci pour les bonnes dizaines d'années de vos émissions. C'était parfait. Bon, ça malheureusement, va, c'est fini.
Ça n'a pas été trop dur toutes ces années avec nous, Michel, ça va?
Ah, les petits mots d'amour que vous avez entre vous, c'est formidable.
C'est vrai, hein? Ben oui.
ça va manquer sérieusement. Hein.
Vous savez que vous allez pouvoir retrouver Jean-Luc sur Facebook. Hein. Vous avez Facebook ou pas, Michel?
Oui, bien sûr. Oui.
Et bien voilà, comme ça vous pourrez...
Formidable,
le...
alors.
Même les vieux ont Facebook maintenant.
Même Jean-Luc, pour vous dire.
Ah ouais, mais c'est pour vous dire. Ah
oui, il a fallu vraiment que je le motive.
Hein. Bon, je ne suis pas si vieux que ça, hein, quand même. Hein. Je tiens à préciser.
Jean-Luc, il pourrait être mon petit-fils, presque.
Alors ça, j'en suis pas super persuadé. Hein.
Petit-fils, peut-être pas. Gagné, alors petit, hein. Oui, mais alors, vous êtes petit-fils, pas.
Oh, 78 ans. Hein.
Ah ouais, ouais
votre fils, bien, en tout cas.
Ouais, fils, oui, mais petit-fils, ouais. Ça va être compliqué.
Ah, ouais, c'est
ou alors vous êtes très précoce. Hein.
Alors Michel, qu'est-ce qui vous arrive? On vous écoute.
Eh bien, j'aurais voulu parler un petit peu, que vous me parliez plutôt, un petit peu de la circulation dans les zones... à faible émission pour les véhicules qui ont moins de 30 ans et les véhicules au-dessus de 30 ans qui sont en carte grise normale. Qu'est-ce que ça va devenir d'après vous?
Oh là là, oh là là.
Oh là.
Alors,
là.
Ouais.
Oh là là.
C'est vrai que là, en 2021, les zones à faibles émissions, et on rajoute un M, nous a dit tout à l'heure même Céline Kastner, remplacent ce qu'on appelait les ZCR, les zones de circulation. C'était quoi le R d'ailleurs? Tiens. Voilà, bah, vous voyez, ouais, tant pis, bon. On verra bien. Restreinte, ouais. De circulation restreinte. Voilà, c'est
qu'on
ça.
Arrête là, parce que c'est terrible.
C'est l'âge. Hein,
bon, il y en a quatre qui existent déjà. Il y a Paris, il y a le Grand Paris, il y a Grenoble-Alpes-Métropole, il y a la métropole du Grand Lyon. Et ce qui est génial, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas la même règle. Donc, dans
chaque zone,
c'est un truc de fou. Par exemple, à Paris, hein, on n'a pas le droit de 8h à 20h du lundi au vendredi de circuler avec un véhicule qui n'a pas de vignette critère ou qui est en critère 4 ou 5. Dans le Grand Paris, c'est les mêmes horaires, mais c'est juste les critères 5 et ceux qui n'ont pas de vignette.
Et certaines villes du Grand Paris n'ont pas adhéré. Donc certaines, pour l'instant, on a le droit de rouler et pas d'autres.
C'est voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que critère 4 et critère 5? Alors, critère 4, c'est les diesels entre 2001 et 2005. Et critère 5, c'est les diesels entre 97 et 2000. Et tous ceux qui n'ont pas de vignette critère, c'est les voitures, qu'elles soient essence ou diesel, avant 1997. Et c'est vrai que ça pose un problème pour tout ce qu'on appelle des young timers qui vont pas pouvoir circuler parce que pour l'instant, il y a donc 4 ZFE qui sont actives, mais il y en a 7 nouvelles qui vont arriver en 2021. Mmh. Et il y en a 12 qui sont à l'étude quand même en plus.
Le problème qu'il y a, c'est qu'il va y avoir une inégalité entre les gens qui habitent à la campagne, disons, et puis les gens qui résident à l'intérieur de ces zones.
On va encore compliquer la vie. Alors, ce que vous avez tout à l'heure, vous me disiez un véhicule de plus de 30 ans, un véhicule qui a plus de 30 ans, vous avez tout intérêt à le passer en carte grise de collection. Aujourd'hui, la carte grise de collection n'a plus d'inconvénients comme elle pouvait avoir autrefois.
Je suis d'accord, mais vous avez actuellement à peu près 800 000 voitures de plus de 30 ans qui sont aptes à avoir la carte grise de collection. Il y en a à peu près 200 000 qui ont la carte grise de collection. Il y en a 600 000 à passer en carte grise de collection.
Il faudra les passer en carte grise de collection. On a eu Jean-Louis Blanc, le patron de la Fédération française des véhicules d'époque au mois de décembre, qui nous disait ils sont en négociation pour qu'il y ait une vignette pour les véhicules en carte grise de collection qui leur permettent de circuler donc dans ces ZFE la plupart du temps. Les seuls moments où il y aura une restriction et que ces véhicules n'auront pas le droit de circuler, mais on comprend aisément pourquoi, c'est au moment des pics de pollution, on leur interdira de circuler. Oui, mais le reste du temps, ils auront le droit de circuler parfaitement. Donc on a tout intérêt à passer un véhicule qui a plus de 30 ans en carte grise de collection. Dans les avantages qu'on a à passer en carte grise de collection, il y a le fait de conserver des plaques noires, par exemple. Pour moi, il y en a qui vont dire que ce n'est pas important. Moi, je trouve que c'est important. Et puis surtout, si votre voiture est accidentée, elle ne pourra pas être mise à la benne. C'est-à-dire que le côté économiquement irréparable que peut vous opposer un assureur ne s'applique pas pour un véhicule en carte grise de collection.
C'est un détail important.
Voilà, c'est important. Ouais. Bon, alors après, il faut que le véhicule soit strictement d'origine, c'est-à-dire un véhicule en carte grise de collection. Je ne sais pas si vous avez une voiture qui peut être concernée. Si vous avez mis un gros V8 américain à la place d'un 4 cylindres français, ben, ça ne le fera pas.
Ce qui est important, il y a un détail aussi qu'il faut dire, Jean-Luc, c'est que dans les voitures qui aujourd'hui sont éligibles à la carte grise de collection, beaucoup ne roulent pas et un certain nombre ne rouleront plus. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de collectionneurs, et on en fait partie nous-mêmes, qui ont des voitures qui servent de source de pièces détachées pour d'autres parfois. Donc évidemment,
oui, elles sont comptabilisées,
alors qu'elles ne rouleront plus jamais. Pour une fois, on apporte de l'eau au moulin des écolos et des anti-automobiles. Il y a un certain nombre de voitures qui existent administrativement encore, mais qui vraisemblablement ne rouleront plus. Bon, c'est un détail important aussi, donc il vaut mieux effectivement pour ceux qui roulent, qui ont des voitures roulantes ou qui seront roulantes une fois qu'elles sont restaurées, la carte grise de collection, c'est plutôt la bonne solution, notamment parce que effectivement Jean-Luc a absolument raison. L'histoire de l'impossibilité d'envoyer à la casse une voiture parce qu'elle est économiquement irréparable ne s'applique pas dans ce cas-là. Donc c'est très important. C'est un détail que tout le monde oublie.
Vous avez le contrôle technique tous les 5 ans et qu'il y a un contrôle technique allégé au lieu d'avoir le contrôle technique tous les 2 ans. Donc ça aussi, c'est un avantage. Les restrictions de circulation n'existent plus aujourd'hui et on va même aller plus loin. C'est-à-dire que l'Europe est en train d'adopter des ZFE. Et en fait, cette vignette, sans doute, sera valable dans les autres villes d'Europe. Mmh. Vous pourrez donc continuer à circuler en toute liberté n'importe où en Europe avec un véhicule de collection. Ce qui ne sera pas le cas avec la même voiture, donc à le même âge, mais en carte grise normale.
Merci Michel. Et après Michel, je vous propose maintenant d'entamer le débat. Difficile d'entamer ce divorce entre l'automobiliste et les autos, Jean-Luc. On en parle avec notre invité Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile.
Bonjour Flavien.
Bonjour à tous.
Bon, alors c'est vous qui avez appelé en fait cette étude le divorce impossible. Ça veut dire que la voiture résiste. On aime encore la bagnole en France, comme disait, c'était De Gaulle qui disait les Français aiment la bagnole.
Ah bah De Gaulle l'a dit, Pompidou l'a redit.
Pompidou aimait particulièrement
Chirac l'a redit. Un paquet de présidents étaient plutôt pour cet outil de liberté et de déplacement.
Oui, et puis on pourrait même citer François Fillon, qui est un grand passionné de course automobile aussi. Alors pour répondre à la question, oui, c'est vrai qu'on voit bien que l'automobile, elle résiste parce que pour beaucoup de gens, elle est le seul et unique moyen de déplacement au quotidien. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une zone périurbaine ou rurale, pour aller travailler, pour aller faire vos courses, pour emmener les enfants à l'école, il y a pas le choix. C'est soit la voiture, soit la voiture. Et donc, cette France qui finalement voit la voiture comme un outil de liberté, un outil absolument nécessaire pour vivre, elle ne vit pas toujours très bien le fait que la voiture soit stigmatisée Et il y a de l'autre côté la France des grandes métropoles qui a la possibilité de se dépasser autrement, transport en commun, etc., qui, elle, voit la voiture comme un objet de nuisance, de pollution. Et finalement, il y a une fracture automobile qui s'est créée comme ça entre ces deux France qui ne se comprennent pas quand on évoque le sujet de la voiture. Et c'est vrai que la voiture, aujourd'hui, elle résiste encore parce que la France qui a besoin de la voiture, elle l'utilise tous les jours, elle en est très contente.
Alors néanmoins, quand même, dans le sondage que vous avez fait, il y a 72% des Français qui trouvent légitimes les critiques à propos de la pollution de l'air qui peuvent être imputées aux voitures. Et puis, les personnes interrogées aussi considèrent que la voiture prend trop de place dans notre société. Ça, c'est peut-être vrai, mais bon, c'est parfois un mal nécessaire, vous le disiez.
Oui, mais alors ce que l'on voit dans cette étude, hein, c'est qu'effectivement, les lignes sont quand même en train de bouger. C'est-à-dire que le fait que l'on parle beaucoup de la voiture en termes négatifs quand même, hein, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, la voiture pollue, etc. Et c'est un vrai sujet de santé publique, hein, la qualité de l'air dans les villes. Personne ne conteste le fait qu'il y a un véritable sujet. Et on voit que du coup, les automobilistes, tous les automobilistes, commencent à intégrer le fait qu'effectivement, il faut essayer de réduire la place de la voiture dans les villes. Et ça, c'est assez nouveau parce qu'il y a encore quelques années, on avait posé les mêmes questions et on voyait bien qu'on n'était pas au même niveau de stigmatisation, mais de responsabilité de la voiture dans la pollution quotidienne. Mais encore une fois, il faut faire attention, il faut que la place de la voiture recule, mais pour autant, est-ce que vous pouvez vous passer de votre voiture? Aujourd'hui, vous avez encore 60% des gens dans le monde qui vous disent non, je ne peux pas faire autrement, j'en ai besoin.
Est-ce que la crise sanitaire cette année a eu, selon vous, un impact justement sur ces jugements?
Alors la crise sanitaire a certainement eu un double impact, en fait. Un impact qui a finalement renforcer l'idée qu'il fallait prendre soin de l'environnement, parce qu'évidemment, pendant le confinement, d'un seul coup, plus de voitures qui circulent, la qualité de l'air qui s'améliore de façon spectaculaire, ça a provoqué effectivement...
Le silence aussi, ça a été le silence quoi, principalement.
Absolument, la pollution sonore dont on ne parle jamais, mais qui est un vrai sujet aussi, a renforcé l'idée qu'il fallait effectivement faire en sorte qu'il y ait moins de voitures. Et de l'autre côté, à l'inverse, la crise sanitaire et la crainte que suscite le fait de monter dans des bus ou dans des métros, à générer ce sentiment que la voiture était aussi une valeur refuge. C'est-à-dire que les gens, les trois quarts des personnes qu'on a interrogées, nous disent « Ah mais quand je suis à l'intérieur de ma voiture, je me sens en sécurité. »
Donc c'est vrai qu'il y a eu sécurité sanitaire, on est d'accord.
Oui, en sécurité sanitaire, absolument. Donc il y a eu un double effet, un effet de « il faut qu'on fasse attention pour réduire la place de la voiture, parce que pour la qualité de l'air, c'est quand même pas terrible. » Et en même temps, le fait que la voiture, elle joue quand même un rôle de protection quand on est tout seul dans sa voiture, évidemment, on risque moins d'être contaminé que quand on est dans un métro bondé.
Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait le constat sur ce qui s'est passé en 2020, mais surtout, vous avez des prévisions pour 2021. On va vers quoi, selon vous?
Alors, je suis très prudent sur les prévisions. On a sorti nos prévisions parce qu'on le fait chaque année, on fait tourner nos modèles économétriques, mais l'aléa sanitaire est vraiment majeur. C'est-à-dire qu'on a quand même du mal à savoir quand est-ce qu'on va sortir réellement de cette crise. Quand on écoute les spécialistes, on voit bien que quelquefois, ils ne sont pas d'accord entre eux sur cette année 2021. Dans notre scénario central, si vous voulez, on anticipe quand même une amélioration de la situation sanitaire au deuxième semestre, ce qui voudrait dire une croissance, un fort rebond de la croissance malgré tout. Alors le référent est faible, parce que 2020, on aura un très fort recul de la croissance. Mais si on a une croissance qui progresse d'environ 6%, ce qui semble être le consensus des instituts de prévision, les organismes internationaux, on devrait avoir une progression des ventes en France de l'ordre de 19%. Mais ce 19% viendrait quand même après un moins 27%. Donc on ne retrouvera pas les niveaux d'avant-crise en termes de volume d'immatriculation sur le marché du neuf avant, à mon avis, 2023, alors que le marché de l'occasion, lui, a beaucoup mieux résisté.
Est-ce qu'il y aura un switch? En particulier, on a vu l'émergence cette année des véhicules électrifiés, c'est-à-dire les hybrides rechargeables, les électriques. Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer cette année?
Oui, là, très clairement, la montée en puissance des ventes de voitures électrifiées, alors full électrique ou hybride, je pense que ça a quand même surpris pas mal de monde parce que les prévisions n'étaient pas aussi optimistes, surtout dans le contexte de crise sanitaire. On a des volumes qui sont assez importants. On dépassera les 300 000 immatriculations si on prend hybride et 100% électrique. Et on peut penser que la dynamique va se poursuivre pour plusieurs raisons. La première, c'est que les constructeurs, ils ont un plan produit qui s'intensifie de ce point de vue-là. Donc, il y a plus de voitures électriques qui vont arriver sur le marché au cours des prochains mois, des prochaines années. Donc, ça, forcément, ça, c'est positif pour les ventes de voitures 100% électriques. Et puis, le deuxième élément, c'est que la voiture électrique est un peu dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que d'abord elle est très aidée par les États, par les pouvoirs publics, la France mais pas seulement, et puis aussi plus il y a de voitures électriques, plus il y a d'ambassadeurs. Et ça, c'est très important.
Oui, parce que c'est ce que je dis, moi, les gens qui me disent « Ouais, la voiture électrique, c'est pas bien », je dis « Mais putain, mettez... » Pardon, hein, voilà, je l'ai dit, tant pis.
Pétard,
mettez vos fesses dedans, faites un tour avec, vous allez voir que finalement, c'est beaucoup plus sympa. Et une fois que les gens ont roulé avec, ils se rendent compte qu'on ne renonce pas au plaisir de conduite, et voire même, on prend plus de plaisir à rouler dans une voiture électrique que dans une voiture thermique équivalente.
Exactement, et ça, faut vraiment pas minimiser l'importance du bouche à oreille, l'importance comme ça du buzz positif, si je puis dire. Il y a de plus en plus d'ambassadeurs de la voiture électrique qui disent effectivement autour d'eux, moi j'en suis très content, elle me coûte moins cher à l'usage, etc., etc. Et donc c'est de nature à rassurer les indécis. Donc je pense qu'il y a une espèce de dynamique positive autour de la voiture électrique qui est en train de se créer. Et donc au cours des prochaines années, on peut penser que les ventes vont encore progresser.
Est-ce que ça veut dire que les gens, alors jusqu'à présent, à chaque fois qu'on leur posait la question, en leur demandant est-ce que vous seriez prêt à acheter une voiture électrique, alors dans le déclaratif, ils disaient oui, puis alors dans les faits, c'était pas exactement ça. Aujourd'hui, votre chiffre, c'est 17%, c'est ça, ceux qui veulent acheter une voiture en 2021 pensent franchir le pas. Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Ça veut dire qu'on est à quoi aujourd'hui? 10% dans les ventes? Ça veut dire que ça va encore beaucoup progresser?
En France, on est à 6%. Là,
6%,
année,
d'accord.
100%
électrique. Non, mais sur l'année, mais sur les derniers mois, on était plus que ça. On était à 10% sur les derniers mois.
Absolument. Alors, est-ce qu'on sera à 17% l'an prochain? Je n'en suis pas sûr. Simplement, ce qu'il faut regarder quand on a du déclaratif, comme ça, des intentions d'achat, même si celles-ci, on les a mises un peu en tension, c'est-à-dire qu'on s'est adressé uniquement à ceux qui envisagent de changer de voiture l'année prochaine. Donc, on a pris vraiment ceux qui ont un projet chaud. On n'a pas pris ceux qui disent « Ah bah oui, dans 3-4 ans, je vais changer de voiture », parce que là, c'est beaucoup plus aléatoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la dynamique. Effectivement, les intentions d'achat, elles progressent, et elles progressent fortement. Donc, ça montre effectivement que ça confirme le fait que les ventes de voitures électriques ont encore un bel avenir devant elles.
Bon. Merci Flavien.
Merci à vous.
Et en espérant qu'on sorte très vite de tout cela
crise sanitaire. Hein.
Voilà, bien sûr, et qu'on reprenne une vie à peu près normale. On va revenir dans un instant. Raymond sera avec nous au 32-16 et on retrouvera aussi notre question pas si bête. En hiver, pour chauffer l'habitacle, faut-il enclencher la climatisation? Moi, je le fais. Est-ce que je fais bien? Jean-Luc va peut-être me taper sur les doigts dans
Mystère
un instant.
Mystère et boule de pétanque.
Voilà, et puis François-là est toujours là.
Voilà. On va parler alpine.
Et on va parler alpine aussi. Eh bien, dites-moi, on en a beaucoup de choses là.
Oh là là.
Allez, à tout de suite après la météo.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous voilà de retour, le week-end des experts. C'est l'automobile jusqu'à 10h pour nos dernières minutes en compagnie de Jean-Luc Moreau. François Lin qui est toujours là. Dans quelques instants, notre question pas si bête. Et Raymond qui nous attend au 32-16. Bonjour Raymond.
Oui, bonjour. Merci de prendre ma question.
Bon, mais bienvenue, Raymond.
Et puis surtout, bonne fin pour vous. Malheureusement, c'est une belle émission qui va partir. Je suis vraiment dommage. C'est vraiment dommage.
Oh ben merci, ça nous touche, Raymond. Merci beaucoup. Bon alors, vous nous appelez pourquoi ce matin?
Alors en fait, c'est que je voudrais changer de véhicule. Et j'ai trois voitures en fait qui m'intéresseraient en essence, en boîte auto. Et puis en occasion récente, et je ne sais pas du tout laquelle choisir. Ah. En fait, ce serait la 3008,
d'accord,
la Jeep Compass ou la CX-30.
D'accord. C'est quoi votre budget? Parce que ces trois voitures à des prix pas tout à fait...
J'ai regardé. Occasion récente, 18, entre 2018 et 2019, ça va environ entre 25 et 27 000 euros, quoi.
Ouais. Le 3008 est un tout petit peu plus logeable que les deux autres. Il est un petit peu plus gros aussi. Donc tout dépend si vous voulez en faire une familiale ou pas. Parce que
C'est surtout pour transporter pas mal de choses.
Vous avez besoin d'un volume de coffre important alors si vous voulez transporter des choses. Parce que la Mazda CX-30, qui en termes de style est sans doute celle qui a le plus de caractère, a une habitabilité qui est pas exceptionnelle et un coffre qui n'est pas très grand pour la catégorie. Donc celle-là, à l'intérieur, si vous avez besoin vraiment de beaucoup d'espace, ça ne va sans doute pas être la plus adaptée. En revanche, c'est celle qui peut proposer la motorisation la plus sympa. En l'occurrence, le 2 litres 180 chevaux Mazda est un super moteur qui est accouplé à une boîte maison et d'une grande fiabilité. Et c'est un moteur qui, dans la vraie vie, est très étonnamment moins consommateur qu'un petit moteur suralimenté. qui lui, sur les, dans des conditions d'homologation, va avoir des chiffres de consommation qui vont être assez bas, mais dans la vraie vie, va avoir des consommations qui vont s'envoler assez vite dès qu'on a le pied lourd. Un moteur atmosphérique est plus efficient dans un usage normal. Voilà. Bon, après, il y a aussi une affaire de, je disais esthétique, mais j'imagine dans les trois, il y en a comme un qui vous plaît mieux que les autres.
Bah, en fait, ma femme, c'est surtout la CX-30. Moi, j'étais pour la 3008. Mais le problème de la 3008, là, il y a deux jours, il y en avait une qui avait été volée juste en face de chez moi. Et donc, les gendarmes sont venus. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, qu'en Seine-et-Marne, c'était la voiture la plus volée et qui était très facile à voler, en fait.
Ah oui.
Donc, en fait, ils se mettent derrière les portes d'entrée, car généralement, on laisse nos clés devant les portes d'entrée. D'accord. Et ils ont un système pour prendre le brouillage, enfin pour prendre les codes du véhicule. Donc en ce moment, c'est la mode des 3008. Alors c'est ça qui me fait un petit peu peur, quoi.
Ah oui, bah merci pour l'info. Hein. Donc on va pas acheter 3008.
Je l'ai appris il y a deux jours. Hein. Donc, mais alors en Seine-et-Marne, je ne sais pas si c'est la même chose en France, partout. Bon, mais en Seine-et-Marne, en ce moment, c'est la mode.
D'accord. Bon, donc on peut trouver des 3008 à bon prix. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Voilà, donc ça me fait
pas
peur,
forcément avec fait, la carte grise, mais par contre, ils sont pas chers.
Ouais.
Non, mais l'avantage du 3008, c'est qu'il s'en est vendu beaucoup, donc il y a beaucoup de choix.
Ouais.
C'est l'avantage. Bon, après, l'avantage du Mazda, c'est comme je vous disais, il a un style qui est beaucoup plus sportif, plus agressif. On en voit moins, c'est moins la voiture de monsieur tout le monde.
Donc,
de toute façon, on va laisser le Jeep Compass de côté parce que, a priori, si votre femme veut une Mazda et que vous voulez une Peugeot, personne n'a envie d'acheter une Jeep.
Ah, bah, la Compass me plaît aussi.
D'accord.
Voilà. En fait, la 3008, je l'ai essayée. Donc, c'est une voiture qui est confortable, qui est agréable, qui a le nouveau look. Mais le problème, c'est que tout le monde l'a. Justement, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, la CX ou la Compass, c'est des choses qui me plaisent bien.
Ouais, alors moi, je préfère les moteurs de la Mazda, comme je vous l'ai dit. Bon, le seul truc, c'est que si vous voulez vraiment faire le déménageur, c'est peut-être pas la voiture idéale. Mais en même temps, c'est votre femme qui va rouler avec. Donc,
elle va
la piquer tout le temps.
C'est que je m'en vais, je charge un petit peu de temps en temps quand je pars en vacances. Vous connaissez les femmes, quoi. Donc, voilà.
Elle va être contente quand elle va écouter.
Je pense que toutes les femmes vont être contentes.
Vous savez quoi, avant de partir en vacances, vous mettez une bonne partie de ses chaussures à la poubelle, comme ça elle aura moins de trucs à emmener.
D'accord.
Hein, faire des amis.
Et puis remarque, comme ça, elle partira définitivement avec la voiture en plus.
Bienvenue sur Macho Radio, les amis. Tout va bien. Superbe. Je dis rien parce que c'est la dernière. Hein, mais là, je vous laisse à la dérive. Oui. Je vous laisse à la dérive.
Absolument.
Et RMC,
merci beaucoup.
C'est Radio Macho, RM, non?
Avec vous, oui, c'est vrai.
Macho man.
C'est vrai que vous confirmez tout cela. Merci beaucoup.
Raymond.
Écoutez,
au revoir.
Oui, on va continuer.
Bonne année,
merci.
Bonne année. Allez, on enchaîne avec notre question pas si bête maintenant.
Si je vous dis con, vous avez l'air. C'est pas français.
RMC, votre tour.
C'est juste, mais c'est pas français.
La question pas si bête.
C'est une excellente question.
La question pas si bête, la dernière question pas si bête. En hiver, Jean-Luc, pour chauffer l'habitacle, faut-il enclencher la climatisation ?
Alors, ça dépend.
Très bien.
Ça dépend.
C'est une bonne réponse, finalement.
Ça dépend du type de... Non, ça dépend. Alors, c'est pas vraiment ça dépend. Dans certains cas, oui tout le temps. Dans d'autres cas, oui fréquemment. Je vous explique pourquoi. Sur les voitures électriques maintenant modernes, vous avez ce qu'on appelle des pompes à chaleur. C'est un peu ce que vous avez chez vous pour chauffer votre maison.
Oui.
Donc, ça a un très bon rendement énergétique, aussi bien pour faire du froid que du chaud. Donc, de toute façon, le chauffage dans votre voiture, vous serez obligé de mettre en route la pompe à chaleur. Dans la Zoé, vous êtes obligé d'avoir la pompe à chaleur en route pour faire du chaud l'hiver, comme pour faire du froid l'été. Donc là, pas de question, est-ce que je mets en route ? Oui, si vous voulez avoir du chaud, il faudra que la pompe à chaleur soit en route. Maintenant, sur un véhicule, on va dire standard, avec un système de climatisation qui est prévu, non pas pour faire du chaud, mais uniquement pour faire du froid. On peut se dire, c'est idiot, parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire du froid et que vous allez réchauffer l'air ensuite. Donc on peut se dire, c'est idiot de faire du froid et de consommer un peu de carburant.
Oui, pour le réchauffer.
Mais non, pas tant que ça, pour deux raisons. Ah. Pour deux raisons. Tout d'abord, le fait de faire fonctionner la climatisation va permettre d'enlever la buée très rapidement dans la voiture. Parce c'est que pour ça, la moi, climatisation que je m'en sers. Souffle un air sec, ouais. Voilà, qui est déshydraté. Donc ça va permettre d'enlever la buée. Ça, c'est la première.
Et si vous vous amusez à mettre le chauffage l'hiver sans la clim, au bout d'un moment, vous ne voyez plus rien.
Ouais, c'est un sauna dans la voiture.
C'est, ça. C'est un peu comme quand on a des lunettes et qu'on met un masque.
C'est un peu ça. Je confirme, ça arrive de temps en temps. Ouais, ouais. Voilà. Et en bécane, je t'en parle même pas.
Donc, il est de toute façon conseillé de mettre la clim en route, même l'hiver. Pourquoi ? Parce que le réfrigérant transporte également le lubrifiant pour le système, en particulier pour le compresseur. Et si vous laissez sécher tout le circuit de climatisation, au moment où vous allez remettre en route, d'abord le compresseur, il va prendre un petit coup dans le museau parce qu'il n'aura pas eu de lubrifiant et quand il va démarrer sans lubrifiant, il n'aime pas ça. Et puis ça va faire sécher tous les joints du système et vous risquez d'avoir des fuites avec une perte de gaz. Qui dit perte de gaz dit perte de lubrifiant, etc. etc. Et c'est après un cercle vicieux. Vous allez aussi, à faire fonctionner votre clim, enlever l'humidité du système, ce qui va permettre d'éviter le développement de trop de bactéries. Sinon, vous allez avoir un vrai nid à bactéries. Et quand vous allez remettre votre clim en route au moment où l'été va revenir, que vous aurez besoin de froid, ça va sentir le champignon, voire le pied sale dans votre climatisation. Il y a mieux quand même pour parfumer l'habitacle. Donc, c'est à la fois de l'entretien courant de la climatisation, et puis aussi pour la bonne santé des occupants du véhicule. Alors, il est conseillé quand même, quand on a un véhicule thermique classique, de ne pas mettre le climatiseur en route tout de suite au moment où on démarre. On roule un petit peu, on roule quelques centaines de mètres, ça suffit, pour éviter de trop tirer sur le circuit électrique à la fois, et parce que le compresseur, vous allez me dire, il est entraîné par le moteur, il ne tire pas par le circuit électrique. Si, parce qu'il y a quand même des composants électriques qui vont tirer sur le circuit. Au moment où on démarre, on sait que, comme on vient de tirer sur le démarreur, l'alternateur va fournir beaucoup d'énergie, donc on va avoir beaucoup de consommateurs de courant, donc il vaut mieux éviter. On va attendre que le moteur commence à chauffer un petit peu, et ensuite, on va mettre la climatisation en route, d'abord parce que ça permettra de réchauffer l'air qui sort de cette climatisation et éviter d'avoir trop froid dans la voiture. Et tout à l'heure, je disais, on va consommer plus parce qu'on fait du froid, qu'on réchauffe en plus. L'hiver, la surconsommation de la clim, c'est vraiment négligeable. Hein. C'est 0,5 litres à l'heure.
D'accord.
Si vous êtes,
Alors, sur mon électrique, je le sens passer quand même. Hein.
Oui, non, mais vous, c'est normal, vous faites de la chaleur purement. Là on parlait de la climatisation qui va pomper les calories. Non, mais qui va pomper les calories du moteur thermique. Elle fabrique du chaud.
Et après, elle fait du froid. Puisqu'elle fait la clim aussi.
Non, mais elle fait du froid l'été.
Mais l'hiver.
Oui, mais elle fait les deux. Non, elle fait que du chaud l'hiver.
Parce que j'enclenche la clim aussi.
Oui. Non, mais vous avez une climatisation réversible. Oui. Alors que dans les voitures, c'est pas une climatisation réversible. Là, c'est une pompe à chaleur réversible, comme l'appareil qu'on a chez soi, qui fait du chaud l'été et du froid l'hiver. Il inverse simplement le cycle. C'est tout.
Oui, mais c'est vrai que sur l'électrique, on le sent passer, quoi, quand on met la clim.
Oui, quand on met la clim, oui. Enfin, quand on met le chauffage, on sent passer, effectivement.
Effectivement.
Il est plus intéressant, d'ailleurs, quand on a un véhicule électrique ou hybride rechargeable, d'avoir des sièges chauffants, ce qui permet d'avoir une bonne sensation de chaleur assez rapidement pour une consommation électrique beaucoup moins importante.
Jean-Luc, on revient dans un instant. On découvrira cette start-up française qui se lance dans le Airbnb de la borne de recharge. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez, ça s'appelle Watt Park. On en parle avec son directeur de stratégie dans un instant. Et puis, bien sûr, vos questions auto au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio. On a encore quelques minutes à passer ensemble. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Le week-end des experts, l'automobile, on est là jusqu'à 10h. Avant de retrouver, les paris RMC avec Jean-Christophe Drouet. Jean-Luc, on va découvrir maintenant dans notre rendez-vous sur le vif, un nouveau service qu'on peut surnommer le Airbnb de la borne de charge. Il s'agit de Watt Park. Et nous avons Eric Valla avec nous, son directeur stratégie au téléphone. Bonjour Eric.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Eric. Bon, alors est-ce qu'on a tout dit quand on dit le Airbnb de la borne de recharge ?
On en a déjà dit beaucoup, puisqu'en fait, au départ, l'idée était quand même de permettre à tous de disposer de bornes de recharge, puisque en fait, l'idée c'était de démocratiser la borne de recharge et faire en sorte que chacun d'entre nous puisse en disposer à un coût raisonnable et même au-delà, puisqu'elle est monétisable un peu sur le modèle d'Airbnb.
D'accord. Donc en gros, je fais installer une borne à vous, une borne Watt Park chez moi, et je peux faire payer ceux qui viendraient se recharger. Par exemple, quand François Alain vient recharger ses vieilles voitures à la maison, hein, quand il vient recharger la jamais contente à la maison, je lui ferai payer donc une partie de l'utilisation de la borne et de l'énergie qu'il va consommer.
Exactement, c'est vous qui fixerez le tarif en tant que propriétaire de la borne, sous réserve évidemment que vous ayez décidé de l'ouvrir à tout public, donc de la partager. Et à partir de là, effectivement, vous pourrez récupérer, effectivement, monétiser, récupérer financièrement, je dirais, la qualité du service que vous aurez offert.
D'accord. Alors, ces bornes, c'est des bornes évidemment particulières. Qu'est-ce qui fait que, quand on en voit une, on peut se connecter dessus ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Comment fonctionne le système ?
En fait, c'est justement le génie de Marc Lepage, qui est l'inventeur de cette borne de recharge, c'est qu'il n'a pas inventé qu'une borne. Il a inventé un écosystème et il a inventé, c'est breveté, un nouveau système de dialogue entre une borne et un smartphone. Que ce soit un smartphone d'ailleurs Apple, iOS, ou un smartphone d'une autre nature, avec un operating system qui serait donc un système d'exploitation qui serait Android. Alors ce dialogue, donc, qui est un dialogue entre la borne et le smartphone, a été breveté, et c'est ce dialogue qui permet, indépendamment du fait qu'il y ait un réseau ou pas, d'échanger des informations et donc de pouvoir faire fonctionner le système.
D'accord, de réserver une borne aussi, c'est-à-dire que sur mon smartphone, je vais voir quelles sont les bornes disponibles sur le parcours que je vais utiliser, et éventuellement de réserver cette borne pour mon usage personnel.
Absolument, vous pouvez sélectionner la borne qui est disponible évidemment sur le réseau. Parmi toutes les bornes disponibles, en fonction de votre parcours, vous pouvez réserver cette borne sur une plage horaire donnée. Et à ce moment-là, lorsque vous allez vous rapprocher de la borne, il va s'engager un dialogue en Bluetooth entre la borne et votre smartphone. Celle-ci va clignoter. Il pourrait y avoir plusieurs places de parking, par exemple. Celle-ci va clignoter, vous allez reconnaître la place où vous devez garer votre véhicule et démarrer votre recharge.
D'accord. On peut espérer un développement dans combien de temps de ce système-là en France ?
Ben écoutez, nous déjà, on est bien entendu, on travaille énormément pour se mettre en conformité avec toutes les nouvelles normes et certifications récentes qui ont été établies, en particulier celles qui permettent d'obtenir des subventions publiques, comme le programme Advenir, par exemple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on va démarrer dès le mois de janvier nos premières installations.
D'accord.
Pour l'instant, on a fabriqué, ou en cours de fabrication, 1000 bornes. Et par la suite, on a à peu près, sur 2021 aujourd'hui, en précommande, on a environ 20 000 bornes.
D'accord. Et l'objectif final, c'est quoi ? C'est 1000 bornes par jour ? C'est ça que c'est ce que vous donnez comme objectif ?
Oui. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout le génie de Marc Lepage, c'est que dès le départ, il a pensé, il a mis en place un modèle industriel de production et de masse. Et tout ceci est fabriqué en France. On a 5 principaux fournisseurs qui sont français, que ce soit sur la plasturgie, sur la mécanique, sur l'électronique. Ce sont tous des fournisseurs français et ils fabriquent en France.
Et c'est pas plus cher de fabriquer en France ?
Non, pas du tout. Alors là, vous seriez même surpris. On est arrivé à avoir des tarifs, puisqu'on a fait un comparatif avec la Chine sur certaines pièces. On est moins cher en France qu'en Chine, et je dois le dire bien souvent, avec une bien meilleure qualité.
Ouais, et ça coûte combien alors, tiens, une wallbox de chez vous ?
Alors, ce n'est pas une wallbox.
Ah, ce n'est pas une wallbox.
Non, c'est une borne de recharge.
D'accord.
Watt Park, cette borne de recharge, donc, installation comprise, parce que je pense que c'est intéressant de regarder combien elle coûte avec l'installation. Donc, l'installation comprise, si on est sur la borne 3,7 kW, qui est une borne à charge lente de 16 ampères, on est sur un tarif de 999 euros.
Installation comprise, d'accord.
Installation comprise, oui. Et si vous êtes sur la charge accélérée à 32 ampères, vous êtes sur 1499 euros. À cela, il convient de préciser que vous pouvez obtenir une subvention sur 20 dans quelle catégorie vous êtes, dans le cadre du programme Advenir, de 40 à 60%
du
prix total. Donc, d'accord. Vous voyez que c'est relativement intéressant. Et pour les particuliers, par exemple, un particulier qui a une maison, il doit bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique en tant que propriétaire. Et c'est un forfait de 300 euros.
D'accord. Et en plus, il peut louer donc sa borne quand il n'est pas chez lui.
En
et
plus,
ça veut dire qu'il peut gagner de l'argent. C'est ça. C'est surtout ça l'intérêt.
Exactement, c'est-à-dire que vous avez un facteur accélérateur du déploiement de nos bornes, qui est que ces bornes, non seulement coûtent très peu cher, grâce effectivement à l'action du gouvernement, mais elles coûtent aussi très peu cher, puisqu'à fin de compte, elles vont rapporter de l'argent.
D'accord, bah, très bien, c'est clair. Donc ça s'appelle Watt Park. Vous en êtes où là Watt pour Park. L'instant le déploiement est enclenché ou pas, Eric?
Eh bien là, on va déployer nos premières bornes début janvier.
D'accord.
Et ensuite, au fil de l'eau, puisqu'on va bien entendu servir en priorité nos premières précommandes.
Parfait. Eh bien,
en particulier sur les dômes, où on a une commande relativement importante, et c'est très bien d'équiper nos territoires ultramarins.
Très bien. Eh bien, bonne chance, bon vent, donc à Watt Park. Merci Eric Valla.
Mais je vous en prie, merci à toute l'équipe.
Merci, au revoir. Fabrice est avec nous au 32-16, Jean-Luc, notre avant-dernier auditeur. Bonjour Fabrice.
Bonjour Fabrice.
Bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Ravi de vous avoir. Un peu triste.
C'est normal.
Oui, ça se sent un peu dans votre voix, mon cher Fabrice. Vous nous appelez d'où?
Alors, du fin fond de la Dordogne, du Périgord vert.
D'accord. Est-ce que vous avez un compte Facebook?
Non.
Non, bah tant pis, vous ne pourrez pas suivre Jean-Luc Moreau. Alors. Parce que Jean-Luc déboule sur Facebook, et croyez-moi, ça fait du bruit.
Oui, je pense que les serveurs de Facebook vont être à genoux.
Mark Zuckerberg n'en revient pas.
Peut-être que sur un coup de colère, je veux ouvrir ça.
Ah, et bien voilà, comme ça, vous pourrez poser vos questions à Jean-Luc Moreau. Et en plus, là, vous voyez, il était disponible que le dimanche matin. Mais là, vous pourrez le solliciter
jour et nuit.
Tout au long de la semaine.
Si je n'arrive pas à vous répondre, il y a le compte de François Alain. Si je n'arrive pas à vous répondre,
exactement.
Lui, il est 24-24 aussi. Non, mais avec François, on a des projets en commun. On va faire des choses.
Oui, mais c'est pour ça que c'est important que vous soyez sur les réseaux pour communiquer toutes ces informations.
Oui, bien sûr.
On vous écoute, quelle était votre question?
En fait, c'est plutôt pas un défi, mais enfin, j'ai une Golf 7 de 2018 multifuel.
Multifuel,
donc,
oui.
Qui roule
à l'éthanol, oui. Bah, si vous la vendez, je vous l'achète.
Essayez de me convaincre de passer sur de l'hybride. Rechargeable.
Faut la garder. Ouais, celle-là, faut la garder.
Ah oui.
Et je vais essayer surtout de vous convaincre de passer sur l'hybride éthanol. Ford, voir.
C'est
Ford.
Mon vœu pieux, ça.
Ouais.
C'est,
oui. Non, mais vous savez quoi? C'est très bien parce que Ford se décide à lancer toute une gamme éthanol, dont de l'hybride éthanol, là, fin janvier.
C'est pas vrai.
Mais si. Et ce qui se passe, c'est que Volkswagen, que j'avais convaincu, moi, de vendre en France cette multifuel, puisque c'est moi qui avais convaincu le patron de Volkswagen de la commercialiser, malheureusement, le réseau a pas suivi, mais vous avez vu les clients et vous en êtes
lamentable.
Ils sont tous extrêmement satisfaits. C'était la meilleure de toutes les Golf. Donc ceux qui en ont, qu'ils les gardent, parce que franchement, c'est une super auto. Elle marche très bien, elle consomme pas beaucoup. Le coût kilométrique est plus faible que tout ce qu'il y avait qui roulait sur le marché à l'époque. Et en plus, ça pollue pas. Alors donc voilà.
Moi, j'aurais fait une série limitée, Jean-Luc Moreau.
Oui, c'est vrai.
Non, mais c'est fou. Pour tout vous dire, j'ai cherché une Golf en France multifuel, hors de prix. Il a fallu que je me rabatte sur un revendeur.
Et vous l'avez acheté en Suisse ou en Suède?
Oui, en Suède. C'est un réseau qui avait un filon pour récupérer des voitures, des Golf notamment, pratiquement exclusivement que des Golf, et un prix raisonnable.
Oui, parce qu'en France, elles vont se vendre sous le manteau si ça continue.
C'est ça. J'ai été voir deux concessionnaires VV. Ils m'ont dit, mais c'est quoi? Non, on ne fait pas. Je dis, renseignez-vous.
Le réseau n'a pas suivi, c'est incompréhensible.
C'est dommage.
Alors, ce qui va se passer, moi, ce que je dis là, Ford, ils vont un peu secouer le cocotier, donc. Il y a des constructeurs qui vont se dire, ah là là, mais c'est pas idiot. Alors, il y a déjà Land Rover qui propose des modèles hybrides flex-fuel. Mais bon, on est dans une catégorie de prix qui est complètement différente. Mais là, Volkswagen, je pense que ça va les titiller un petit peu quand même de voir que Ford arrive sur le terrain. Ils vont leur piquer des parts de marché avec ça.
Donc, voilà, je comprends pas. Ils ont un moteur fabuleux. Golf a... Enfin, VV a fait une Golf...
Ah ouais, le 1.5 litre, oui, non mais...
Fabuleux.
Oui.
Mais fabuleux. En plus, ils l'ont optimisé pour l'éthanol.
Ah oui, vous parlez du 1.4 litre, de celui que vous aviez sur votre voiture. Mais le nouveau moteur, le 1.5 litre, il pourrait facilement passer à l'éthanol aussi. Et donc, je pense que ça va booster un petit peu le marché. Donc, c'est très bien, en fait, qu'il y ait un constructeur qui dise, j'arrive avec une offre, une vraie gamme. Une vraie gamme, pas un modèle, une vraie gamme. Et là, une fois que les autres vont regarder les chiffres de vente, ils vont se dire, ah, ça serait bien qu'on y aille.
Disons qu'il faut que le... le réseau commercial suive, en fait.
Mais maintenant, ils vont suivre. Maintenant, ils vont suivre. À l'époque, ils avaient plein de diesel à vendre. Donc, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas vendre l'éthanol parce qu'ils avaient les diesels sur les bras. Aujourd'hui, les diesels, ils sont tranquilles. Ils ne les ont plus. Ils ont l'électrique à vendre. Mais l'électrique, ça leur pose encore... Même s'il y a eu beaucoup de formations dans les réseaux, ça leur pose encore un petit problème. Et ils vendront plus facilement de l'éthanol. Donc, c'est clair que s'il y a un modèle qui arrive, ça se vendra bien.
Parce qu'en fait, pour moi, entre guillemets, la voiture idéale, c'est une hybride rechargeable éthanol.
Alors ça existe là, chez Land Rover. Si vous êtes riche, vous pouvez vous payer ça.
Eh bien, merci beaucoup, Fabrice. Et bien voilà, faites le bon choix pour les semaines qui viennent avec ces nouveaux modèles
on va
qui
avoir,
vont arriver.
Il y a plein de
qui vont faire du bruit.
Ça va faire bouger, ça évidemment. Va faire bouger les lignes. Ça, c'est plutôt pas mal.
Évidemment.
Bon choix, madame. Bon choix, mademoiselle.
Mais non, mais là, ça c'est fini, ça.
Ah oui, c'est vrai.
Au revoir.
Au revoir.
Oui, mais c'est peut-être ça qu'il faut dire. On dit au revoir.
Dans 5 minutes.
Oh là là.
Dans 5 minutes. Mais auparavant, nous avons Pierre qui est avec nous au 32-16. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bienvenue
Pierre. Bonjour Jean-Luc. Ben écoutez, c'est un grand honneur de vous avoir. En plus, apparemment, j'ai appris que j'étais le dernier.
Oui.
Vous êtes le dernier.
J'ai essayé de vous joindre pas mal de fois, mais bon, ça n'a jamais marché. Mais vos conseils m'ont toujours permis de bien gérer mes petits soucis. Depuis toutes ces longues années, parce qu'il me semble que mon Charan, il est de 2003, et déjà, je vous écoutais bien avant. Donc, j'ai eu plein de voitures entre-temps, mais j'ai toujours gardé cette vieille voiture. Et franchement, à chaque fois que j'ai eu des soucis, je me suis toujours bien comporté avec vos conseils, avec les concessionnaires, et ça a toujours bien marché. Et franchement, vous allez vraiment beaucoup nous manquer. Vraiment.
Bon, écoutez-moi, c'est tous les matins,
tous les dimanches matin. Ça va être dur. Alors du coup, par signe de défiance, je vais arrêter l'application RMC le 3. Dès tout à l'heure.
Vous allez faire grève de l'appli RMC? Non, mais il faut pas. Attendez. Attendez. Il y a quand même. Vous savez qu'RMC est une très bonne radio avec de bonnes émissions tout au long de la semaine. Alors c'est vrai qu'après, on peut discuter de l'arrêt de cette émission qui ne nous incombe pas. Rappelons que c'est la direction qui a pris cette décision. Mais bon, voilà. Vous allez peut-être pas désinstaller l'appli pour ne plus nous écouter RMC. Franchement.
Bon, mais en attendant, franchement, on a passé des bons dimanches.
J'ai c'est vrai.
RMC avec ma grand-mère quand j'étais gamin. J'ai 50 ans aujourd'hui. Enfin aujourd'hui pas aujourd'hui, mais j'ai 50 ans maintenant. Et franchement, cette radio m'a suivi toute ma vie. Et on verra bien. Si c'est intéressant, on écoutera. Mais sinon, tant pis. Hein. On essaiera de voir ailleurs s'il y a des bons conseils sur les voitures.
Exactement.
Jean-Luc, franchement, vous êtes un super expert. Vraiment, vous avez éclairé tous nos choix. J'ai plein d'enfants. J'ai une flotte de voitures. J'en ai 4, bientôt 5. Et chaque fois, je me fie à vos conseils. J'ai jamais été déçu.
Voilà. Bon, écoutez, merci. J'ai essayé de faire illusion pendant 17 ans. C'est pas facile, hein, des fois. Ouais.
Non, mais
des fois, on s'est rendu
compte. Tout ça, on va être triste, quoi.
Des fois, on s'est rendu compte que vous faisiez illusion.
Ouais, c'est ça.
L'usurpateur. On va se lever maintenant, le dimanche, à cause de vous.
Bon, en attendant, vous pouvez toujours suivre François, qui sera toujours. François Alain, qui sera toujours sur.
On va rallumer la télé pour les
découvertes. Avec Découverte. Vintage Mécanique. Et j'espère.
Et les autres.
J'espère et je touche du bois que nos projets vont aboutir et on sera peut-être tous les deux bientôt
50 ans.
Ah bah c'est génial. Franchement, je suis très heureux.
Bon, Pierre, merci pour ce petit coucou, c'est gentil. Merci à vous.
Merci à vous d'avoir donné la parole et puis que tout se passe bien pour vous.
Merci et bonne année, hein, parce que de toute façon, on veut bien oublier 2020 tous.
Oui, c'est clair. Ça, c'est un.
On est tous d'accord.
Merci beaucoup.
Merci de m'avoir donné la parole.
Merci beaucoup. Et historiquement, vous resterez le dernier. C'est quand même.
Ah oui, vous êtes le dernier des derniers.
Je ferai la surprise à toute ma famille.
Ah ben ça, vous pouvez, parce que là, franchement, c'est historique.
Merci Pierre. Bon, Jean-Luc, voilà, ça y est, ça arrive.
C'est la fin.
Alors bon, moi tout ce que je retiens de évidemment de toutes ces émissions, c'est notre complicité, notre amitié tout au long de ces années. C'est vrai qu'on a vraiment tissé des liens et on a bien rigolé vraiment. Moi, c'est ce que je retiendrai de toutes ces années. Au-delà du fait,
c'est vrai qu'elle est bossée en se disant ça va être sympa, c'est quand même mieux. Et pourtant, on se lève tôt.
Au-delà du fait qu'on a appris, et je pense que les auditeurs sont d'accord avec moi, énormément de choses grâce à vous parce que vous êtes un puits de science. J'ai jamais vu quelqu'un être autant passionné et avoir autant de culture dans un domaine. Franchement, et je dis ça, même en comparant avec le Patrick Miolan, Christian PC, etc., qui sont tous excellents. Franchement, c'est vous qui m'avez le plus impressionné. Et je sais qu'on va rester amis, qu'on va continuer à vivre
à manger de la côte de bœuf.
C'est ça, quand vous aurez arrêté votre régime.
Non, ce qui est génial avec Jean-Luc, c'est que vraiment, il s'est parlé de tout.
Oui, bien sûr.
Automobile. Il n'a pas qu'une famille.
Il y a des blagues où il n'est pas très bon.
Mais ouais.
voulez. On peut pas être bon partout. Vouloir,
mais franchement,
sûr.
Il est capable d'improviser sur n'importe quel sujet de l'automobile. Et très peu de monde dans notre univers de journaliste sait le faire.
Exactement.
Et franchement, Jean-Luc, là-dessus, il est top.
Jean-Luc, c'est vrai que je peux parler de voitures anciennes comme de voitures de demain, quoi.
Tout à fait. Voilà. Bien sûr. Bah, de vaisseaux spatiaux.
Non, mais c'est une passion. Oui, oui. Non, mais
c'est con, parce que si on était resté peut-être un peu plus longtemps, il nous aurait parlé de soucoupes volantes, de choses comme ça.
Le vaisseau spatial de Dark Vador, c'est lui.
C'est lui, bien sûr.
Mais Dark Vador, c'est moi. Je suis ton père.
Jean-Luc, bon vent pour la suite. Tous les auditeurs qui sont là peuvent vous retrouver sur Facebook.
Hein, oui, je leur indiquerai ce que je vais faire après. Parce que
c'est le point d'entrée pour vous retrouver.
J'espère faire quelque chose.
Oui, je suis pas inquiet.
Juste égoïstement, parce que moi aussi, mon aventure s'arrête à RMC. Alors, ça a été ma radio de cœur pendant quasi 30 ans, mine de rien. Voilà, donc
je ne fais pas ton âge, François.
Merci, c'est très gentil. Bon, j'ai peut-être quelques cheveux en moins, mais c'est vrai. Voilà, mais je reste dans le groupe de Next Radio TV d'Altice Média, puisque je commence dès demain une autre aventure tout aussi passionnante, puisque j'arrive sur BFM Business pour présenter une émission qui s'appelle Tech & Co. Du lundi au jeudi, entre 20h et 22h, on va parler tech. Et je suis très heureux de commencer cette nouvelle aventure. Et même si RMC restera ma radio de cœur.
Parlerai tech, mais c'est du boulot quand même, malgré que ce soit du tech.
Ah oui, c'est très bien ça.
C'est très bien, c'est très bonne.
Il fallait finir sur une comme ça quand même.
Bravo, ça, bravo. Au revoir.
Merci beaucoup les gars. À cette même place, donc la semaine prochaine, vous retrouverez cette matinale commune RMC BFM TV. On leur souhaite bonne chance, bon vent. Très bon dimanche à vous tous. Et encore une fois, une bonne année. Merci à François d'avoir été avec nous, François Alain. À très vite.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto.